Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici un nouveau numéro de Ça se passe près de chez vous avec Stéphanie Petit du journal Toutes les Nouvelles. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Jean-Marc.
Et aujourd'hui, eh bien, nous avons un nouvel invité que vous allez nous présenter. Il s'agit de François Bellet et on va parler communication et personnel politique sans doute.
En effet, on va parler surtout communication et personnages politiques. François Bellet qui a déjà publié un essai en 2021 et qui vient de publier une note qui s'intitule « L'homme politique face aux diktats de la com » pour l'Institut Diderot. Est-ce que vous pouvez, François Bellet, bonjour.
Bonjour.
Nous parler de votre travail. Qu'est-ce qui a motivé d'abord cet essai et puis cette note?
De profession, d'abord, je dirais que je suis publicitaire, mais que en tant qu'essayiste, mes travaux concernent essentiellement à étudier et critiquer l'image politique, médiatique et numérique. Voilà un peu mon triptyque de terrain de jeu. J'ai publié en 2008 Ségolène, la femme marque, qui était mon premier essai, préfacé par Jacques Séguéla à l'époque, et qui s'intéressait à la construction marketing d'un personnage politique, en l'occurrence public, puisque c'était à l'époque Ségolène Royal. Mais au-delà de ça, ça abordait pour moi le phénomène des marques en politique, c'est-à-dire avec un positionnement, une identité, une longévité. Bon, donc je suis rentré dans la communication politique par ce biais-là. Et puis, il y a eu un changement, il y a eu un peu le basculement du monde d'après. On a du mal souvent à mettre des mots dessus ou un moment dessus. Et pour moi, le basculement au monde d'après, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, ont changé beaucoup de choses. C'est-à-dire le paradigme de la communication, où on est passé d'un modèle, ce que j'appelle le modèle one too many, où une seule poignée de privilégiés pouvait à l'époque s'adresser au plus gros monde, au modèle avec les réseaux sociaux many to many, où là tout le monde avait aujourd'hui la possibilité de rentrer dans le débat public. Et puis les acteurs ont changé, la tonalité a changé, on est beaucoup aujourd'hui dans le clash, la polémique, et donc ça a donné lieu au nouveau spectacle politique, donc l'essai l'année dernière paru aux éditions Nekez, et ensuite la note, où je me suis dit que là l'homme politique avait atteint les limites de la com. Et il fallait, pour moi, fixer l'époque et donc l'apparition de la note le mois dernier à l'Institut Diderot.
Dans quelques instants, si vous le voulez bien, vous nous présenterez un petit peu l'Institut Diderot d'une façon un peu plus détaillée. Mais si on ouvre cet essai que vous avez réalisé et si j'écoute les propos que vous venez de tenir, on s'aperçoit que ce changement de communication qui s'est opéré avec cette rupture, c'est plus un rentrer, c'est communiquer dans le cadre d'une société de consommation, c'est ça? Ou est-ce que ça veut dire qu'on vend un contenu politique, on vend un contenu idées, un programme?
J'irais même plus loin, je pense que là vous avez parlé de société de consommation, moi je parle de société de conso-communication.
De conso-communication.
Aujourd'hui, tout est marchandise. Une une de presse, un contenu sur les réseaux sociaux. Je parlerai pas d'idées parce que ça, je pense qu'on va en reparler justement. Il y a un manque cruel d'idées et de concepts dans le champ politique aujourd'hui. Mais par contre, il y a des happenings, il y a des punchlines, il y a la petite phrase, il y a des polémiques, il y a des clashs, il y a des co-branding, il y a tout un tas de trucs marketing qui font qu'on parle de la politique souvent sur la forme, par le prisme de la forme, au détriment du fond.
Et si nos auditeurs l'ont pas lu, le nouveau spectacle, bon, forcément c'est un essai, donc c'est plus long, c'est plus long, c'est plus dense, et vous y avez abordé un certain nombre d'idées que je vais pas détailler maintenant, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quand même
c'est le sujet cœur
quand même, du livre. La note, pour le coup, vous passez au crible en fait les hommes politiques et leur utilisation des réseaux sociaux, leur utilisation des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on peut analyser entre l'essai, donc 2021, et la note 2023?
Ouais. Alors, en fait, c'est un peu la thématique est peu ou prou la même, si ce n'est que dans l'essai, j'ai souhaité étudier le basculement et le changement de paradigme entre ce que j'appelle la politique spectacle, qui était incarnée et pratiquée par des professionnels de la politique. Bon. Au nouveau spectacle politique qui est incarné par des non-professionnels, ce que j'appelle le néo-politique, qui derrière est rentré dans le débat public. Alors ça peut être un influenceur, ça peut être un youtubeur, ça peut être un cuisinier, ça peut être un avocat, qui aujourd'hui peut-être une audience plus importante que l'homme politique, et c'est lui aujourd'hui qui crée le débat. Donc l'essai, c'était vraiment fixer un changement de paradigme. la note, elle concerne plus le champ politique à proprement dit. Voilà. Et dans la note, il y a, on va dire, deux idées fortes. La première, c'est une dimension historique. J'explique que on est passé des médias de masse ou aux réseaux sociaux et ça a changé aussi la tonalité des choses comme ça. Et la deuxième idée qui est pour moi intéressante, c'est compte tenu de l'époque que nous traversons, l'homme politique voit et vit les limites de la com. Et donc derrière, c'est un retour à la politique et à la communication. Moi, en d'autres termes, je suis un peu le communicant anti-com. Voilà, je suis pour la communication et viscéralement contre la com. Et la com, on sait aujourd'hui la décoder, et tout le monde la comprend et la décode.
Alors, on va revenir sur ces deux notions, communication et com. Peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter l'Institut Diderot, qui est dirigé par le philosophe André Comte-Sponville,
ouais.
Ce qui n'est quand même pas rien. Et
ouais,
je
ouais.
précise quand même pour ceux qui n'auraient pas la note, note qui peut se retrouver sur le site de l'Institut Diderot. Je précise quand même que la note est préfacée, enfin un avant-propos en tout cas, est rédigée par André Comte-Sponville, qui résume, enfin qui place bien le débat sujet.
Ouais,
Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet institut?
Alors, l'Institut Diderot, donc c'est un laboratoire d'idées, donc présidé par Jean-Claude Seize et dirigé effectivement par André Comte-Sponville. Ça a été créé, je crois, il y a une 10-15 ans. La particularité, c'est qu'ils sont dans la prospective. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à des sujets, ils travaillent avec des experts et ils essayent d'avoir des approches dans le temps long. Donc, ils publient des formats courts, donc c'est des notes, des carnets, souvent, on va dire 60 000 signes, en tout cas, c'est ce qui m'avait été, entre guillemets, commandé. Et derrière, on s'approprie un sujet, alors ça peut être un sujet scientifique, politique, communicationnel, lié à la santé, à la sécurité.
Alors, si vous le permettez, je vais citer quelques titres de notes qu'on peut trouver.
Avec des auteurs prestigieux, par ailleurs.
Avec des auteurs prestigieux, tout à fait. On peut trouver, par exemple, l'euthanasie à travers le cas de Vincent Imbert, d'Emmanuel Allais. On peut aussi trouver, j'en prends un autre au hasard, réformer la retraite, c'est transformer la société. J'en prends encore un autre au hasard. Hop, l'intelligence économique, l'intelligence artificielle au travail. Enfin voilà, retrouve des sujets très très variés qui vont, comme vous le disiez, dans différents domaines.
Voilà, c'est ça. Et donc il y a des signatures prestigieuses et je suis pas peu fier de m'inscrire, en tout cas avec humilité, mais dans cet institut et je suis plutôt content. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est le format en fait. Il y a deux choses. D'abord, c'est que c'est plus court qu'un essai et en même temps plus long qu'un tweet, donc on peut quand même apprendre beaucoup de choses. Donc en fait, on a une démarche quand même synthétique et ça c'est intéressant. Et puis ensuite, c'est comme ce sont des idées qui visent quand même à être vulgarisées, c'est un contenu qui est téléchargeable, en tout cas disponible gratuitement sous différents formats, donc c'est PDF mais aussi podcast. Donc ça, c'est intéressant.
Un bon vecteur de communication.
De communication pour le coup, parce que là c'est pas du vent, il y a du contenu, il y a du travail.
Voilà, le tout en moins de 40 pages, je le précise.
Voilà.
Tout à fait
ça.
Accessible, on peut prendre le temps de le lire
voilà.
Dans le week-end. Une bonne idée d'ailleurs pour ce week-end, pour nos auditeurs. Alors on va revenir sur ces deux notions, communication et com, parce que effectivement vous en avez parlé. Est-ce que vous pourriez définir la com?
Ouais.
C'est quoi la com?
Alors d'abord, la com, c'est intéressant parce que moi je viens comme de l'univers des marques, et dans l'univers des marques et plus largement du marketing, la com, ça a plutôt une image positive. Alors, il fait de la bonne com, c'est sympa. Donc ça renvoie à les marques, ça renvoie à la publicité, ça renvoie au buzz, mais c'est quelque chose de positif. Mais dès lors qu'on prend cette notion-là et qu'on l'importe dans le champ politique ou public, la com, ça devient tout de suite une idée, une notion péjorative. En disant, c'est que de la com, et souvent, c'est employé.
Pour dénigrer, quand
pour
on
dénigrer.
Dit c'est de la com.
De toute façon, c'est que de la com, ça veut dire que là, on est
on
vraiment
y croit pas.
Dans du buzz, on n'y croit pas, c'est du vent. Bon. Comment je définirais la com que je distingue bien de la communication? Et c'est, je pense que ça peut être un point central de notre discussion aujourd'hui, c'est ça. Alors, la com, je la définirais d'abord sur tout ce qui peut se nourrir du temps court. Ça, c'est très important, la notion de temps. Temps court, c'est tout ce qu'on peut appeler séquence d'une durée d'un jour, de 3 jours, de 8 jours. C'est un peu la politique par fragment, en fait. Ce qui est tout à fait dans l'air du temps. On consomme quelque chose. Bon, une séquence. Donc d'abord, le temps court. Deuxième élément, je dirais que c'est tout ce qui se nourrit de l'actu. Et là, c'est tout ce qui se diffère de l'actualité. Alors l'actu, par exemple, ça peut être l'abaya à la rentrée, ça peut être le harcèlement. Ce sont en fait des sujets non pas prioritaires politiquement, mais porteurs sur le plan marketing. Ça, c'est intéressant. Deuxième élément. Donc, je rappelle, le temps court, l'actualité. Ce qui permet à chaque fois aux politiques de faire un rebond sur l'actu. Troisième élément, c'est l'émotion. La politique de l'émotion, c'est vraiment de la com. Donc, c'est l'indignation... c'est la colère, c'est le clash, la polémique, la petite phrase et tout. Bon, alors ça, je veux dire, c'est trois niveaux qui pour moi nourrit la com. Maintenant, concrètement, c'est le parola, c'est-à-dire commentaria, le fait de toujours parler en permanence. Ça, c'est de la com, ce qui est quelque chose de très précis dans notre société de conso-communication. Il faut parler, surtout. L'homme politique, on est quand même dans une époque aujourd'hui, il suffit d'avoir des mots forts, des messages forts, des promesses fortes pour pouvoir gouverner. C'est dingue, ça suffit pour calmer un peu les foules, ou les exciter par ailleurs. Deuxième élément, c'est l'apparition permanente. C'est-à-dire qu'il suffit d'apparaître dans l'écran pour faire de la politique. Un déplacement happening par exemple. Ah, le Premier ministre s'est déplacé. Ah, le Président se déplacera pas. C'est ne pas être là, c'est être là aussi. Donc il y a des mots, il y a de l'image. Bon. Troisième élément, c'est encore une fois le temps ultra court. C'est-à-dire que l'homme politique est aujourd'hui bloqué, coincé entre trois temps. Le temps long, ça c'est la vision qui est propre à la politique, mais qui n'arrive pas à aller, et pourtant c'est ce qu'exige la politique. Le temps de l'immédiateté, qui est le temps médiatique, où il faut réagir en permanence, et puis
à
surtout...
Chaud.
À chaud, et surtout le temps court, presque ultra court, c'est le temps électoral. Au bout de 5 ans, quand on a 5 ans, par exemple, pour un député, finalement, on a 3 en exercice, puis 2 en campagne.
Oui.
Donc, difficile, ça, c'est de la com. Là-dedans, cette matrice de com évolue aujourd'hui le politique, le communicant politique.
D'accord. On va faire une courte pause, et on se retrouve juste après pour parler de communication, pour le coup.
Eh ben, donc voilà pour la reprise de cette émission. Ça se passe près de chez vous, consacrée à la communication et à la politique, hein. On est en plein dans le vif du sujet. On parlait il y a quelques instants, notre invité nous définissait ce qu'était la communication.
La com.
La com.
On va aujourd'hui, enfin, on va maintenant passer à la communication.
Alors,
c'est quoi la communication?
Eh ben, la communication, c'est tout ce qui n'est pas de la com. C'est tout ce qui repose sur du fond. C'est-à-dire des idées, des concepts, et qui s'appuie pas, ce qui s'inscrit pas forcément dans l'air du temps, mais ce qui, correspond à une attente ou citoyenne.
Donc, voilà. Si je peux, avant de vous laisser poursuivre, pour préciser votre propos, la com, c'est aussi l'utilisation de l'émotion que vous évoquiez il y a quelques minutes. C'est aussi faire appel à des facultés un peu plus inconscientes, comme le visuel, l'auditif et l'olfactif.
Absolument.
C'est ça?
Ouais.
C'est pas de la communication, ça. C'est de la com.
Ça dépend, parce qu'après, si vous voulez, on est dans un monde médiatique, cognitif, et tout ce qu'on fait relève de la communication. Effectivement, l'apparition, tout à l'heure je vous parlais de l'apparition, ou même une voix qui porte pendant un meeting. Par exemple, je pense à Valérie Pécresse, par exemple. Quand elle fait son premier meeting de campagne à Villepinte, je crois, elle porte pas sa voix, elle n'incarne pas son personnage. Bon, bah, elle est pas dans un rôle de communication. Pour faire de la politique, il faut être un bon communicant. Quand on fait que de la com, il y a des limites. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de se dire pourquoi aujourd'hui il faut passer de la com à de la communication. Et c'est ça qui est important, c'est que on peut pas faire abstraction aujourd'hui, encore une fois, de l'époque dans laquelle on vit. Et surtout de l'ère de la défiance globale et totale à l'égard de l'homme public. Je suis venu avec quelques chiffres qui sont pour moi intéressants. Il y a eu une étude qui s'intitule Fracture française, qui a été éditée par Ipsos le mois dernier avec plusieurs instituts en partenariat. Et là, il y a des chiffres qui sont assez intéressants. Par exemple, c'est intéressant parce que la crise de la défiance, quand je parle de l'homme public, c'est à la fois le politique, le médiatique, le sondeur, le scientifique. Tout est remis en cause. Donc là, il y a un problème de crédibilité, quelque part. Par exemple, concernant le politique, seuls 4% des Français ressentent du respect à l'évocation du mot politique. 4%. On continue de creuser, hein. Je pense qu'on va bientôt arriver à 1%. Concernant les médias, 54% donc des Français, presque donc plus d'un Français sur deux, pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias. Bon, les sondeurs, donc tout ça est lié, les sondeurs, donc les instituts de sondage, 45% des Français, donc quasi un Français sur deux, ont confiance dans les instituts de sondage. Vous imaginez, et là je vais finir par le scientifique. J'en parle parce que c'était le scientifique avec la crise du Covid a vraiment été mis au premier plan sur le plan sur les plateaux et tout. Bon, un Français sur deux estime que ce n'est pas parce qu'un scientifique démontre un fait que c'est vrai. Et j'écarte, je crois qu'il y a un jeune sur cinq aujourd'hui qui pense que la Terre est plate. Donc, quand on a tout ça, il y a une crise de l'homme public et une crise de la parole publique. Et donc, aujourd'hui, je dirais que ce soit l'homme politique, l'homme médiatique, le scientifique ou le sondeur, ou quelque part, c'est, en tout cas l'homme public, pour moi, il a perdu l'équilibre. Il a perdu l'équilibre entre la crédibilité d'un côté et le désir. Crédibilité, on ne croit plus. De facto, on ne croit plus. On remet en cause ce qu'il dit. Et le désir, à force d'apparaître en permanence, de parler en permanence, il n'y a plus de désir, on ne regarde plus. Par exemple, Emmanuel Macron, qui a parlé énormément des allocutions depuis comment dirais-je son premier mandat en 2017, les gilets jaunes, le Covid, l'Ukraine, bon, le conflit israélo-palestinien. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sa parole est attendue, mais il n'est plus désiré. Il a tellement parlé, tellement fait de com que quand il veut faire de la communication, ça marche plus.
Donc moi, je veux réhabiliter la communication. Une habitude, c'est ce que vous sous-entendez. L'absence de désir, ça veut dire créer une habitude,
absolument,
un rendez-vous.
Il a, disons que l'hyper-exposition médiatique, attention, je jette pas forcément cette hyper-exposition à Emmanuel Macron. C'était le cas aussi de Nicolas Sarkozy. Enfin, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on en atteint les limites, puisque l'hyper-exposition médiatique aujourd'hui et l'apparition permanente dans les écrans fait qu'à un moment donné, il y a un rejet, et ensuite, on n'est plus entendu, on n'est plus écouté. Par exemple, quand Emmanuel Macron, au mois de septembre, prend la parole sur France 3, sur un sujet, il fait moins en termes d'audience qu'une émission musicale au même moment. C'est un marqueur. J'en tire aucune conclusion, mais je dis que c'est un marqueur. Donc, à force de trop parler, on n'est plus écouté.
Précisons quand même que c'était une allocution qui était très rapprochée d'une autre allocution.
C'est vrai.
Il faut quand même le préciser.
Il faut le préciser, mais ça reste pour moi, qui observe le champ comme ça, médiatique, politique et tout, je l'ai noté, je l'ai mis de côté.
En effet.
Non, mais la question que je me posais par rapport à ce que vous venez de dire, c'est la crédibilité, notamment, que vous évoquez du personnel politique. C'est dû à quoi, cette perte de crédibilité? Uniquement à l'outil de communication que vous évoquez, à la façon de communiquer, ou c'est plus profond?
Non, il y a... Alors,
enfin, c'est un peu en marge de la question du débat que pour ce soir, mais...
Non, je pense que il y a énormément d'angles possibles pour répondre à cette question. D'abord, il y a des raisons politiques, c'est-à-dire de souveraineté. Clairement, est-ce qu'aujourd'hui un maire de village, est-ce qu'un président de région, est-ce qu'un député, est-ce qu'un président peut aujourd'hui avoir toutes les cartes pour décider ou autre? Par exemple, je l'ai mis en conclusion. Jacques Attali a déclaré, je vais vous dire quand, sur Public Sénat le 18 octobre 2016, le président de la République n'a plus de pouvoir. Intéressant. Moi, je note, je vois qu'aujourd'hui, donc il y a des raisons politiques à ça. Alors la question, c'est est-ce que l'homme politique peut encore aujourd'hui? Mais ça, j'écarte ça de côté parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'image, la communication. Ensuite, il y a aussi une rupture avec les citoyens qui aujourd'hui ne se déplacent plus pour voter. Donc il y a une fracture vraiment entre, est-ce qu'on peut appeler ça les élites, entre guillemets, en tout cas, l'homme public de manière générale, et qu'on ne croit plus, on ne croit plus ni les promesses, ni les intentions, et la base, c'est-à-dire les citoyens. Et pour moi, je pense que all la com est devenue contre-productive et alors, qu'il faut revenir à quelque chose de co-constructif.
Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous demandiez si l'homme politique peut encore. Vous avez parlé d'abstention. Alors ça, on le voit effectivement, échéance après échéance, et de crédibilité des hommes politiques. Est-ce qu'on peut pas, en revanche, faire un pas de côté en ce qui concerne les maires? Parce que les maires, pour le coup, des 36 000 communes de France, ils ont été au premier plan lors de la crise sanitaire.
Absolument.
Et c'est eux qu'on va voir quand il y a un problème qui les concerne pas forcément d'ailleurs, mais c'est le premier interlocuteur, le premier représentant de l'État quand même. Est-ce que eux, ils se démarquent pas quand même?
Alors deux remarques là-dessus. Effectivement, les maires, par rapport à la communication, deux idées là-dessus. Les maires, je les mets de côté dans le sens où ils ne sont pas du tout dans le spectacle. D'abord parce
pas tous,
mais en tout cas les maires des petites communes, on va dire de la ruralité, les territoires. c'est des je veux dire c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que d'abord ils n'ont pas le temps, ils sont vraiment au contact du réel. Ouais, c'est ça, de la vie en vrai, qui fait que bon bah la notion du spectacle, de dimension show off existe peut-être moins que dans le national quand on est ministre, président ou député. Bon, premièrement, en revanche, et c'est ce que j'ai mis les chiffres dans la note sur la dernière partie, c'est que les maires sont aussi l'incarnation de l'homme politique. Et donc quand il se passe des choses de corruption, des mises en examen par exemple du ministre de la justice, il y a un moment donné, quelle mauvaise publicité pour de l'homme politique. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui de s'engager, même simplement pour un maire de commune, qui ont été quand même, je le rappelle, agressés, molestés au mois de juin, juillet et tout. Je veux dire, moi j'ai été devant la mairie pour symboliquement être en soutien au maire qui était en tout cas qui un peu embarqué dans cette crise du politique. Donc en fait lui paye justement ce trop plein de com aussi.
Et sans compter les problèmes de corruption au niveau local qu'on observe, qu'on a actuellement aussi dans l'actualité. De façon, je parle au niveau local des problèmes que se posent pour les hommes politiques locaux. Je ne cite personne.
Je suis pas forcément au courant de ces affaires-là.
Il y a des ouvrages qui sortent sur les réseaux de d'influence qui existent notamment dans des régions comme la région PACA.
D'accord. Non mais je
voilà, c'est tout.
D'accord. Non mais après
c'était juste un point par rapport à une réaction par rapport à ce que vous venez de dire.
Mais ça veut dire que moi en fait l'idée là-dedans c'est que le local, le l'homme politique local qui compte pas ses heures, qui s'occupe de tout, qui est à la fois maire mais aussi psychologue, bon ami, parfois flic, enfin je veux dire à un moment donné, il s'est multicasquette, et ben lui à un moment donné il subit un peu effectivement cette crise du politique. Et là, je crois que c'est aussi le moment de réhabiliter le politique et la politique en fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, et là, c'est l'autre partie du livre, c'est qu'il faut passer de la com à de la communication. Et de la communication, déjà, ça serait du silence médiatiquement. Le silence et l'action.
On va faire une courte pause et puis on va revenir juste après. Donc on est toujours avec François Bellé, je le répète, auteur de l'essai Le nouveau spectacle politique aux éditions Nicaise et de la note L'homme politique face au diktat de la com à l'Institut Diderot. Vous en avez parlé en début d'émission, on a parlé de réseaux sociaux. Ce marqueur, en fait, dans votre analyse qui a généré cette surcommunication ou cette com. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux, ils peuvent pas quand même être positif.
Ah si si.
Parce que vous les diabolisez un petit peu, j'ai l'impression.
Alors ça c'est important parce que disons que c'est un peu ambivalent en fait mon propos dans le sens où c'est pas tant que je les diabolise, c'est que d'abord c'est un vrai marqueur, c'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux qui ont changé le paradigme de façon de faire de la politique, les acteurs, la tonalité, la nature même du contenu politique. Bon, on a donné la parole à tout le monde finalement. Ça, c'est une bonne chose. Mais la résultante de ça, c'est ce que j'appelle le bruit permanent. Et c'est donc le commentariat. Après, ça a fait émerger des voix. Ça a pu même faire éclater ou mettre au jour certaines affaires, certaines pratiques. Ça, c'est un peu, entre guillemets, ce diktat de la transparence qui peut avoir du bon. Bon, c'est le premier élément. En revanche, la conséquence de tout ça, c'est que tout se vaut avec les réseaux sociaux. Et là, j'en parle moins dans ma note, mais plus dans l'essai, c'est la notion d'expertise. Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde avec le social médiatique, c'est que la parole d'un scientifique est presque au même niveau qu'un monsieur tout le monde qui va pouvoir faire une vidéo YouTube sur un sujet. Tout se vaut. Le contenu se vaut, la parole se vaut, et à la limite, ce qui est important, c'est les audiences. Et donc, dans ce commentariat, ce flot de cette production de contenu, au fond, qu'est-ce qu'on en retient ?
Peut-être pas grand-chose.
Peut-être pas grand-chose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est aussi notre façon d'être, avec notre comportement, cette notion de scrolling. Très intéressante chez les psychologues qui analysent ça. On peut passer énormément de temps à regarder, à défiler, mais c'est aussi notre manière, entre guillemets, de consommer, notre rapport à l'information. Tout à l'heure, je parlais de la consommation par fragment de la politique. C'est intéressant de voir aujourd'hui, en fait, tout le monde écrit des bouquins, mais aujourd'hui, personne ne lit des livres. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. Et c'est qu'en fait, un tweet suffit pour avoir l'information. Et là, il est là le problème des réseaux sociaux. C'est-à-dire que il suffit d'un hashtag, il suffit d'un titre, voire même une photo, voire même un million de vues pour valider soit l'émetteur, soit le contenu. Et il est là mon problème. En fait, ce que je reproche aux médiatiques, c'est de faire de l'actu par rapport à l'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais de l'autre côté, on met en avant le spectaculaire. Qu'est-ce qui va marcher ? C'est la punchline d'une participante d'une télé-réalité, mais qui va être au même niveau qu'une exaction de guerre. Et qui va être au même niveau qu'un tuto de cuisine. Pourquoi ? Parce que dans la matrice du spectacle social-médiatique, ce qui compte, c'est l'impact, c'est le nombre de vues. Nous sommes dans une société de conso-communication, on en parlait tout à l'heure, et de marchandises. Et là, il y a aussi une petite idée politique derrière.
Oui, c'est ce que vous évoquez là, c'est pas très optimiste en fin de compte, parce que c'est même carrément par un peu déprimant quoi.
Non, déprimant non, parce que on est vivant et puis que on est enthousiaste, tous autour de la table, enthousiaste, vivant, dynamique.
Oui,
tout.
Oui.
Mais
par rapport au sujet évoqué.
Mais déprimant non, par contre le tableau est particulièrement.
Sérieux,
parce que le monde est violent là. Et c'est pour ça que je pense que l'heure n'est plus à la com, compte tenu du contexte, mais plus à la communication, à la co-construction et à l'action.
Alors, vous l'avez évoqué très légèrement en début d'émission. Vous avez parlé des séquences à la rentrée. Alors effectivement, il y a eu la baïa, mais il y a aussi le harcèlement scolaire.
Absolument.
Ça a été un vrai sujet. Ça continue d'ailleurs d'être un vrai sujet, un sujet tellement fort que bon, on a été touché particulièrement dans les Yvelines avec le décès d'un jeune à Poissy, d'un suicide. Aujourd'hui, on a l'impression que les réseaux qui se sont emparés de cette affaire ont quelque peu permis de faire bouger les lignes. Donc, dans cette hypothèse-là, est-ce qu'on peut saluer la présence des réseaux sociaux ?
Alors, les réseaux sociaux, harcèlement, ça c'est quand même sujet explosif quand même. Alors,
effectivement, parce que c'est
très très mauvais.
Alors, je vais aussi préciser peut-être que le harcèlement peut aussi commencer,
bien sûr,
et se poursuivre après l'école. Sur les réseaux sociaux.
J'avais compris l'angle de la question. Moi, ce que je vois dans cette séquence de politique, de sujets politiques. D'abord, c'est que souvent un sujet en chasse un autre. Et tout à l'heure, je parle de politique fragmentaire, parce qu'on est vraiment sur des séquences de 8 jours, 10 jours. Bon, on a parlé de l'immigration pendant 10 jours, on a parlé de la sécurité pendant 8 jours. Là. Bon, et là, on est rentré dans la séquence de harcèlement pour une raison très simple, c'est que ça matchait avec la journée nationale contre le harcèlement.
Bon,
attention, les journées sur lesquelles le politique rebondit, c'est du marketing, hein. Journée internationale des droits des femmes, enfin, il y en a. Et donc, c'est une séquence qui s'ouvre, parce que le médiatique est beaucoup plus sensible au discours et aux prises de parole à ce moment-là. Bon. Qu'est-ce que je reproche dans cette séquence-là? C'est que, on a un sujet qui est réel, qui est dramatique. Et que de l'autre côté, on a une gestion par l'image et la com. Donc, on a un sujet extrêmement sérieux. Et de l'autre côté, on a un co-branding entre Brigitte Macron, qui va avoir des élèves, avec Elisabeth Borne et avec le chanteur Mika. C'est ça qu'on retient. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça renvoie à un autre sujet. Le politique doit se réinventer et surtout s'entourer de manière beaucoup plus professionnelle. Parce qu'un truc comme ça, c'est de la com. Ça cannibalise le sujet. Erreur.
Mais quand certains personnages politiques essayent justement de sortir de ce modèle et qu'ils sont un peu, ils se sentent un peu isolés, c'est dur, ça marche pas, ça fonctionne pas de sortir de ce modèle.
Pour le moment, ça fonctionne pas, mais je pense que c'est l'avenir. Je pense que l'avenir, il va se structurer sur le premier point, et là, ça va être un peu le chapeau pour vous répondre, de la communication. Quel pourrait être l'homme politique qui s'éloigne de la com et qui s'empare vraiment de la communication? D'abord, je pense que il intégrerait des temps de silence dans sa gestion médiatique. Ça, c'est d'abord pour recréer du désir, et il faut pas avoir peur du silence. On est dans des sociétés occidentales ou de conso-communication où le silence fait peur. Est-ce que d'ailleurs c'est lié à la mort ou j'en sais rien, ça faudrait aller creuser derrière. Mais je veux dire, le silence fait office d'autorité. Le silence, il y a un moment donné. Bon, gérer le silence, c'est aussi gérer les émotions du temps court, ne pas être en réaction. Et ça, le premier truc, alors d'abord, ça a été terrorisé dans les années 80 avec François Mitterrand et le sorcier de l'Élysée qui s'appelait Jacques Pilan, et qui avait terrorisé le concept de de rareté de la parole présidentielle. Voilà. Donc c'est lui qui impose l'agenda. On parle de maître des horloges. En fait, non. Le maître des horloges, c'est le temps ultra court de médiatique. Donc il faut que le politique réapprenne le temps long, et le temps long, c'est le silence. Voilà, premier élément.
Ce que d'autres, rapidement, hein, puis je ferme vite la parenthèse, ce que d'autres personnages politiques avant François Mitterrand avaient utilisé fréquemment. On va parler par exemple du général de Gaulle, qui savait se faire désirer avec des périodes de silence pouvant couvrir plusieurs mois.
Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, et ça c'est une grande erreur en termes de communication, on pense que le silence c'est suspect. Alors soit il fait peur, soit c'est suspect. C'est une erreur, justement. On gère le temps. Et quand on est dans le silence, on est aussi dans l'émotion. Parce que l'émotion aujourd'hui, il faut réagir vite. Il faut tweeter vite. Il faut retweeter vite. Il faut occuper l'espace comme si on avait, le politique avait horreur, en tout cas peur du vide. Premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut aller sur, j'en parlais tout à l'heure, des sujets non pas porteurs, mais prioritaires. Et là, il y a une hiérarchie. Je fais simplement un petit aparté sur Emmanuel Macron qui, il y a 8 jours, pourtant ça me paraît si loin, 8 jours, a évoqué l'idée du référendum et du référendum d'initiative partagée. Remarquez qu'aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. C'est intéressant, ça. Or, dans ce référendum, il avait dit « Je vais interroger les Français peut-être sur l'immigration, peut-être, mais en tout cas sur les sujets de société. De société. » C'est une erreur, le choix des sujets. Parce que quand on regarde ce qui intéresse réellement les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est le climat. Enfin, je veux dire, il faut aller interroger sur des sujets prioritaires, mais pas porteurs politiquement. Bon, et donc là, il y a une coupure. Et troisième élément, je pense qu'il faut avoir une vision. Alors, on parle souvent de projet, de... Non, non, une vision. On n'est pas 6 mois, on n'est pas 1 an... Et le politique, je pense que la prime demain reviendra à l'homme politique qui sera dans l'action. On peut communiquer hors média. Hein. Moi, je suis toujours surpris que les communicants fassent assez peu preuve d'inventivité, parce que Dieu sait qu'il y a quand même énormément d'idées à trouver, à mettre en œuvre pour communiquer hors média. Tout le monde a des téléphones aujourd'hui, hein, donc tout le monde peut filmer et poster et relayer des idées intelligentes, une action courageuse. Donc il faut se réinventer, donc l'homme politique doit se réinventer, et l'homme de la communication également.
On va faire une courte pause et on revient juste après. Donc on est de retour pour la dernière partie de l'émission. Avant de poursuivre sur l'homme politique qui doit se réinventer, moi j'avais juste une question. Parce que je reviens sur les réseaux sociaux, pardon, j'insiste un petit peu. Mais vous en avez parlé. Est-ce que le politique s'est pas retrouvé contraint à se retrouver sur les réseaux sociaux pour être perçu comme monsieur et même tout le monde? Parce qu'à un moment, c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher aux politiques, c'est d'être l'élite, d'être au-dessus. Être sur les réseaux sociaux, se filmer dans des actions, j'ai envie de dire, un peu de la vie courante, très populaire et parfois très... très populaire. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'incarner les concitoyens et la France d'une façon générale?
Ouais, mais c'est intéressant. Alors, je cite là dans le chiffre... Alors, quand on parle réseaux sociaux et politique, c'est surtout un en particulier... qui est Twitter, qu'on appelle X aujourd'hui. Parce que sur Twitter, il y a des leaders d'opinion, il y a les journalistes, donc il y a une cible. Alors, je pourrais te parler d'Instagram, je pourrais te parler de TikTok et tout, mais quand on s'intéresse aux réseaux sociaux, c'est essentiellement Twitter, c'est là que ça se passe. On voit Donald Trump émerger sur Twitter. Quand il y a des hashtags qui commencent à monter dans l'actu, ça se passe ici, bon, plus que sur Facebook, par exemple. Bon. Ce qui est intéressant sur Twitter, c'est que je mets le chiffre exact dans la note. Je crois qu'il y a plus de 530 ou 540 députés qui sont inscrits sur Twitter sur les 577. Très intéressant. C'est-à-dire que on y est de facto en disant comment ça t'es pas sur Twitter? Donc il faut y aller. Bon, maintenant après ils y vont avec aucune stratégie. Hein. C'est, je peux vous dire, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réagit. L'espace Twitter, c'est à la fois le communiqué de presse, c'est la réaction, c'est là où on condamne, c'est là où une célébrité décède, on va lui rendre hommage, mais tout de suite au plus vite. Bon, c'est, voilà, on est vraiment là. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure on parlait de désir, de saturation, d'hyper-exposition. Il est clair aujourd'hui que les réseaux sociaux ont, en tout cas par l'usage qu'en font les hommes politiques, ont désacralisé la fonction. complètement. Quand on se met en scène dans sa cuisine et qu'on fait un tuto le dimanche, dans, parce que c'est ça, hein, dans la cuisine ou quand on est au sport, quand on est en train de manger un milkshake sur TikTok et tout, on désacralise la fonction d'homme politique. Mais puis derrière, le ministre, et puis derrière, le député, et c'est monsieur tout le monde, mais le président, et ça a été l'erreur de François Hollande, c'est le président, c'est à tout sauf quelqu'un de normal. Eh bien, ministre, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on a les comportements à l'Assemblée nationale, exactement ce qu'on a dans les problèmes. On a les mêmes problèmes à l'Assemblée nationale que dans les cours de récréation. Non, mais il y a peut-être même des problèmes d'harcèlement, d'ailleurs.
Oui, donc du coup, oui,
pour vous,
c'est pas une bonne idée, on l'a compris, de voir des politiques réagir à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils se sont pas retrouvés un petit peu piégés?
Alors, ils sont piégés parce qu'en fait, le problème des hommes politiques, c'est qu'ils veulent être dans l'air du temps. Et vous connaissez l'adage, c'est l'ambition des feuilles mortes. Donc, il y a un moment donné, il faut pouvoir être sur les réseaux sociaux pour une raison, avec une tactique, avec une stratégie. Bon, ça peut être très intéressant en termes de relais et tout. Mais si on n'y va pas, c'est aussi une stratégie. C'est tout à fait jouable. Au contraire. Et pareil, est-ce qu'on va en média? Oui. Pour dire quoi? Pour rien dire, souvent. Pour commenter. Le problème du politique, aujourd'hui, c'est devenu le premier commentateur.
Vous évoquiez tout à l'heure les priorités, ce qui est prioritaire qu'il faut, sur lequel les hommes politiques doivent communiquer. Ce qui est prioritaire. Est-ce que vous voulez dire par là que même si les gens, si les Français sont de grands consommateurs des réseaux sociaux et suivent des émissions à la télévision, etc., dans tout ce que vous avez dit, est-ce qu'en fin de compte, ça veut dire aussi qu'ils attendent quelque chose d'autre? Si vous communiquez, si vous sortez des réseaux sociaux, si vous communiquez sur les priorités, ça veut dire que tout ce qui se dit actuellement, on fait croire que, on aurait tendance à croire que les gens se sentent concernés, mais c'est pas vrai.
Alors ça, c'est très intéressant. Parce que il faut pas croire. Alors, s'il y a une rupture entre, je dirais, les citoyens et l'homme politique, tout à l'heure on a parlé d'homme public, il y a une crise du politique, mais je ne crois pas qu'il y ait une crise de la politique. Je pense que les Français sont des gens qui aiment la politique, et on le voit bien sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, dès qu'il y a un sujet, les gens commentent, les gens ont un avis, ça foisonne. Bon. L'erreur qui a été faite, c'est de faire des grands débats, des consultations citoyennes, des Grenelles, des Ségur, des trucs. Et ça, c'est de la com. Concrètement, quand on fait faire des cahiers de doléances en français avec des idées, concrètement, so what, on en est où aujourd'hui? On est donc 2019, c'est 4 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle idée forte est revenue? Ça, c'est de la com. En revanche, si on s'appuie sur la force citoyenne, sur l'envie de faire de la politique, parce que on a envie de changer les choses, eh ben, on rentre dans une démarche de co-construction. C'est depuis le référendum de 2005 où il y a le fameux non à l'Europe. Et là, on a cassé les choses. Je pense qu'il faut, pour réhabiliter, il faut réhabiliter l'homme politique, il faut retrouver du lien entre l'homme politique
et les
concitoyens, tout simplement.
Donc ça veut dire, si on vous suit bien, que l'homme politique, il doit consulter, en fait, les concitoyens.
Il doit consulter, il a le devoir de consulter.
Et de respecter la consultation.
Absolument, puisque voilà, on fait bien référence au nom. Respecter. Et ensuite, derrière, de mettre en œuvre. Et là, il faut faire preuve de courage.
Et on sort du coup de la com.
Eh ben oui.
Pour entrer dans la communication.
Et la communication, c'est là. En fait, la com, c'est une coquille vide. C'est un bel emballage, voyez-vous, un beau paquet cadeau. C'est beau, on a l'impression d'un truc. On n'ouvre rien. Bon, ben moi, je préfère avoir quelque chose tout de suite. Et la communication, c'est quoi? C'est du fond. C'est une idée forte. C'est quelque chose qui se passe. Et puis surtout, il y a matière aujourd'hui. On est quand même dans une crise. J'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une ère multicrise. Alors, à la fois locale et internationale, diplomatique, géopolitique, climatique, démographique. Il y a de quoi faire. C'est pas les sujets qui manquent.
Bon, ce sera le mot de la fin. L'homme politique doit se réinventer et consulter ses concitoyens. Merci François Bellet.
Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.